Qu'y a-t-il derrière le sigle TAFTA ?
La conférence sur le sujet donnée par le professeur d'économie Jean-Louis Oudekerken au sein de l'IUT de Digne-les-Bains hier soir a suscité de nombreuses interrogations d'un public nombreux. Organisée par le Pays d'Ignois et le collectif Attaque 04, la conférence animée par Jean-Louis Oudekerken invitait chacun à répondre d'abord à un questionnaire distribué à l'entrée de l'amphithéâtre, le quiz étant la possibilité de débattre en même temps que sa correction collective. Le 14 juin 2013, le Conseil de l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement, a donné mandat à la Commission d'ouvrir des négociations avec les États-Unis en vue d'aboutir à un accord transatlantique pour créer le plus vaste marché du monde. Plusieurs dénominations désignent ce projet de grand marché transatlantique, qu'elle soit anglophone, TAFTA pour Transatlantic Free Trade Agreement ou TIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, ou également francophone, PTCI pour Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l'Investissement. Aucune consultation des peuples n'a eu lieu sur l'opportunité de débuter ces négociations. Au contraire, les citoyens sont tenus à l'écart de discussions se déroulant dans la plus stricte confidentialité entre une poignée de négociateurs, experts, non élus et lobbyistes invités. Je vous propose d'écouter au micro d'Odile Frison, le professeur d'économie et conférencier, Jean-Louis Oudekerken.
Cette conférence s'adresse à tout public. L'objectif, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'est le TAFTA, le traité transatlantique, c'est-à-dire un accord qui est en train de se négocier entre les États-Unis d'une part et l'Union européenne d'autre part, c'est-à-dire un vaste ensemble économique qui représenterait 50% du PIB mondial, 40% du commerce international. Et donc, si ce projet aboutit, ça sera le plus grand traité de libre-échange jamais signé dans l'histoire.
Et quelles conséquences pour le citoyen ?
Les conséquences pour le citoyen vont être gigantesques, très probablement, même si on ne mesure pas toutes les conséquences aujourd'hui, parce que ça va finalement atteindre toute la vie quotidienne, dans la mesure où l'objectif, c'est de libéraliser complètement le commerce, c'est-à-dire d'égaliser les normes sanitaires, les normes environnementales, les normes sociales, dans l'objectif de faire en sorte que les entreprises multinationales en particulier puissent travailler sur cet ensemble sans trop de contraintes. Ce qui veut dire qu'on risque de niveler les normes par le bas, aussi bien sur les normes sanitaires. Exemple, aux États-Unis, les OGM sont acceptés. Et si on veut avoir les mêmes normes, ben il faudrait que les Européens acceptent également les OGM, etc. Et c'est vrai aussi pour les normes sociales. Le temps de travail, le salaire minimum. Et l'un des gros problèmes, c'est que si un État prend une décision qui minimise les bénéfices attendus des multinationales, la multinationale aura le droit d'attaquer l'État devant un tribunal privé constitué de 3 avocats d'affaires. Ce type de tribunal existe déjà, en particulier dans le cadre de l'ALENA, l'accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et très souvent, les États sont obligés donc de payer de fortes amendes dans la mesure où ils ont pris une décision qui minimisait les bénéfices de la multinationale. À titre d'exemple, l'Égypte a été attaquée récemment dans le cadre d'un accord de ce genre parce qu'elle avait augmenté le SMIC et qu'elle avait indexé les salaires sur l'inflation. Et donc, il y a une multinationale qui l'attaque, de même qu'aujourd'hui, l'Allemagne est attaquée par une grande entreprise parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Et évidemment, les entreprises qui travaillent dans le nucléaire vont voir leurs bénéfices diminuer. Et donc, ces entreprises attaquent et demandent entre 3 et 4 milliards d'euros d'amende à l'Allemagne. Donc, je ne sais pas si ça va aboutir, mais toujours est-il que les États vont être confrontés à ce type de conflit très souvent, probablement. Les négociations sont discrètes. Il n'y a aucune fuite pour l'instant sur ces négociations. La seule chose que l'on sache, c'est qu'il y a eu un mandat européen, qui lui-même d'ailleurs a été le résultat d'une fuite parce qu'il n'a pas été diffusé. Donc maintenant on connaît ce mandat, on sait ce qu'il y a dedans, mais on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans les négociations. Donc on fait des suppositions à partir du mandat, donc le mandat de négociation qui a été donné aux négociateurs européens, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Bon, on vient de terminer là un cycle de négociations. Mais on n'a aucun des résultats de ces négociations, qui devraient normalement se terminer au mois de juin, mais très probablement beaucoup plus tard. Pour l'instant, il y a eu un seul vote au Parlement européen, c'est le principe de la négociation. C'est-à-dire que les députés européens ont donné un mandat, 78% des députés européens ont donné mandat aux négociateurs, c'est-à-dire à la Commission européenne, de négocier ce traité, mais sans connaître au départ le mandat d'ailleurs. Donc ils ont donné simplement l'accord de principe et à la fin, une fois que le traité sera réalisé, les parlementaires européens le voteront sans droit d'amendement. C'est-à-dire soit ils l'accepteront entièrement, soit ils le refuseront, mais sans avoir le pouvoir de l'amender. Et là, ça va poser énormément de problèmes, en particulier sur ce tribunal privé, parce que l'Allemagne, la France et beaucoup de pays européens sont opposés à ce type de tribunal, puisque de fait, cela veut dire que ce sont des privés qui vont rendre la justice. Et là, il y a un déni de démocratie, puisqu'ils ne sont pas élus par le peuple.